إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 37 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Iqtida'u al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim avec les commentaires de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Donc on est arrivé maintenant à la page 261 du volume 1 et on est au passage numéro 137. On a commencé à parler au dernier cours au sujet des divergences et après avoir expliqué dans les cours précédents le hadith des 73 sectes et du groupe sauvé, eh bien on va maintenant rentrer dans la question des divergences entre la Ummah et tout ce qui a été mentionné par rapport à ça. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم. Donc ça c'est يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc il dit cette signification elle est préservée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on a préservé cette signification là du prophète sallallahu alayhi wa sallam de différentes façons. C'est-à-dire ça a été mentionné et expliqué de différents points de vue. De quoi il fait allusion à quoi? Il fait allusion au fait que la Ummah va se diviser. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la division et de la divergence. Et ça, c'est quelque chose qui va se produire obligatoirement. C'est-à-dire que c'est obligatoire et c'est sûr et c'est certain qu'il va se produire de la divergence et de la division dans la Ummah. Peu importe ce qu'on fait pour l'éviter. Donc, le cheikh, il explique. Mais pourquoi, dans ce cas-là, mentionner ça hein? Pourquoi mentionner ça et pourquoi yani, l'avoir interdit hein? Puisque la divergence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça va se produire. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit. Donc, c'est pour dire, c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est mauvais, mais en même temps, c'est quelque chose qui va se produire. Il y en a à différents degrés. Ok? De la même manière que tu dis, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti qu'il y allait avoir certains péchés qui allaient se produire dans la Ummah. D'accord? Est-ce que ça veut dire que parce que ces péchés-là, le professeur a dit qu'ils allaient se produire, qu'on ne doit plus avertir contre ces péchés-là, puis qu'on ne doit plus mettre en garde contre ces péchés-là, puis on ne doit plus dire aux gens « faites attention parce que ça c'est haram » parce que le professeur a averti ou a annoncé que ces péchés-là allaient arriver ou allaient se produire dans la fin des temps ou plus tard? Bien sûr que non. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit wa kana yuhadhdhiru ummatahu minhu liyanju min al-wuqu'i fihi man sha'a Allahu lahu as-salama. C'est-à-dire qu'il avertissait sa umma à propos de la division et de la divergence pour que yani celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il en soit épargné dans cette umma ne tombe pas dedans. Hein? Celui pour qui Allah a voulu qu'il en soit épargné, il ne va pas tomber dedans. Donc c'est pour dire, voici, la divergence et la division, c'est quelque chose qui est interdit. Et c'est haram. Et vous ne devez pas tomber dans la division et dans la divergence et dans tout ce qui amène la division et la divergence. Toutefois, c'est quelque chose qui va se produire, que vous vouliez ou non. C'est quelque chose qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que je vais en épargner ceux d'entre mes serviteurs que j'ai voulu, hein, que j'ai choisi. Et d'entre eux qui vont écouter et obéir à mes ordres, ils vont être épargnés de cette division-là et de ces divergences-là. Et il y a des versets qui montrent ça et qui clarifient ça, et on va les mentionner par la suite. Inch'Allah, puis il y a des clarifications de Cheikh Al-Fawzan aussi à ce sujet-là qui vont venir. Mais c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du groupe victorieux, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent, ceux qui s'opposent à eux ne pourront leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Donc c'est pour dire que malgré qu'il y aura de la division, il y aura de la divergence, il y aura toujours un groupe qui ne se divisera pas et qui va rester accroché à la vérité jusqu'à la fin des temps. Même s'ils sont minoritaires, même si la plupart des gens les abandonnent, même si la majorité des gens yani, s'opposent à eux. Après le Cheikh il dit, il a été rapporté selon An-Nazzal ibn Sabura, selon Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: j'ai entendu un homme qui récitait un verset que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réciter différemment. Donc lui il récitait un verset d'une façon, puis il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter un verset de telle façon, puis là il a entendu quelqu'un en train de réciter le même verset mais d'une façon différente de la celle qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit je l'ai pris par sa main et je suis parti jusqu'à chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Et là, je lui ai mentionné. C'est-à-dire, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu m'as appris tel verset de telle façon, maintenant je l'ai entendu lui en train de réciter le verset, mais d'une autre façon. Alors, quand je lui ai mentionné ça, il dit, j'ai vu que dans son visage, il y avait de la colère, comme s'il n'était pas content. Il condamnait ce qui se passait là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous les deux corrects. Les deux, la façon comment vous récitez, c'est correct. Alors ne divergez pas. Parce que ceux qui ont... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, parce que ceux qui étaient là avant vous, ils ont divergé et à cause de ça, ils ont péri. Ceux qui étaient là avant vous, c'est-à-dire les nations précédentes, ils ont divergé entre eux et à cause de ça, ils ont péri. Et ça, c'est rapporté par l'imam musulman. Donc, Cheikh l'Islam, il mentionne ce passage-là. Et maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il élabore là-dessus, puis il clarifie. Il dit, Al-Maqsoud anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, حينما حذر من الاختلاف, إنما حذر من شيء متوقع. وغرضه عليه الصلاة والسلام من هذا التحذير نجاة من أراد الله نجاته. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a averti contre la divergence, il a uniquement averti d'une chose qui va se produire. Et le but et son objectif dans le fait de mettre en garde contre ces divergences-là, c'est uniquement de sauver celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le salut. Il dit ensuite, ومما يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للاختلاف ما وقع في هذا الحديث حيث أن ابن مسعود لما سمع الرجل الذي قرأ آية من القرآن على وجه يخالف ما يعرفه أمسك بالرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قراءتهما قال كلاكما محسن، وكره صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهما من الاختلاف، فدل على أن الاختلاف مذموم. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qui indiquent et qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait la divergence, c'est ce qui s'est passé dans ce hadith. Il dit que Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a entendu qu'un homme a récité un verset du Coran d'une façon qui était différente de ce que lui connaissait, il a pris l'homme, il est parti avec lui chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la récitation des deux, il a dit, vous êtes tous les deux corrects. Votre récitation, à vous deux, elle est bonne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé ce qui s'est produit entre les deux comme divergence. Et donc ça c'est la preuve que la divergence est une chose blâmable. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, il dit, fal maqsoud من هذا الحديث أنه يجب عدم التسرع في الإنكار حتى لا يحدث الاختلاف، فلربما جهل المنكر الحق الذي مع مخالفه، فلا بد من التثبت والتبين، فلا شك أن القرآن أنزله الله بأكثر من حرف، فكان كل يقرأه على لهجته، وهذا من باب التيسير على الأمة. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça, c'est que de ce hadith il est obligatoire de comprendre que il est obligatoire de ne pas se précipiter dans le fait de condamner quelque chose lorsqu'on voit quelque chose qu'on pense être une contradiction ou quelque chose qui n'est pas correct. Il ne faut pas se précipiter pour condamner cette chose-là. C'est-à-dire il faut prendre son temps, puis bien analyser les choses, puis bien réfléchir. Pour pas qu'il y ait de la divergence qui se produit à cause de ça. Parce que c'est possible que quelqu'un qui désire, par exemple, condamner quelque chose, eh bien, peut-être qu'elle-même, la personne qui veut condamner quelque chose, elle pense que c'est mal, mais elle est ignorante en réalité du fait que la personne qui le contredit a peut-être elle aussi des preuves ou des arguments pour justifier qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et donc, il faut vérifier, il faut prendre son temps. Et ça fait partie des règles dans Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Les ulama, parmi les règles qu'ils ont mentionnées pour pouvoir ordonner le bien et interdire le mal, la première chose qu'ils mentionnent, c'est la première condition, c'est Al-Ilm. Al-Ilm, pourquoi? Parce que c'est possible que tu vas aller voir quelqu'un puis tu vas lui dire, Yahri, qu'est-ce que tu fais, ça c'est pas correct, c'est pas comme ça. Et toi, tu dis que c'est pas correct et que c'est pas comme ça parce que tu as appris seulement un point de vue ou une position sur ce sujet-là et tu connais uniquement une preuve sur la question, mais tu connais pas les détails ou tu connais pas le fait qu'il y a d'autres preuves qui rendent également acceptable l'autre chose ou l'autre position aussi. Donc, tu te précipites à condamner quelque chose alors que tu es ignorant. Et à cause de ça, tu crées de la fitna. Parce que la personne qui voit, par exemple, que toi, tu viens le condamner ou lui dire que qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas correct, elle, peut-être, elle se met en colère ou elle se fâche ou elle s'enfle d'orgueil ou quelque chose comme ça. Et elle te répond, non, finalement, moi, qu'est-ce que je fais, c'est correct aussi. Puis là, à cause de ça, eh bien, toi, tu réponds encore une fois avec un peu de zèle, un peu de... Hein, tu dis, ah, mais non, c'est pas correct, j'ai entendu tel cheikh qui a expliqué que ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, ça commence comme ça, des fois, les problèmes et les disputes. Et des fois, ça peut finir même par des bagarres ou des insultes, hein, ou des dénigrements, ou toutes sortes de conflits pour rien. Donc le cheikh il dit, il faut donc dans ce cas-là vérifier et clarifier les choses pour bien comprendre comme il faut. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que le Coran a été révélé dans plusieurs lettres. Et dans le sens que c'est révélé dans plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures du Coran qui ont été révélées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun le lisait selon l'accent qu'il avait. C'est-à-dire que parmi les Arabes, c'est pas tout le monde qui parlait avec le même accent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la tribu de Quraysh, ils avaient un accent. Il y avait d'autres tribus, eux, qui avaient différents accents parmi les Arabes. Et chacun, ils avaient des fois la façon de nommer des choses, différemment de d'autres tribus, hein, différemment de gens de d'autres régions. Donc, chacun avait des accents différents, puis des façons différentes de nommer ou de dire certaines choses. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé le Coran en 7 lettres. Hein, 7 différentes lettres, sab'atu ahruf. Et le but de ça, c'est pour faciliter à la umma la récitation et la mémorisation du Coran. Alors le cheikh il dit ensuite, li'annahum law ulzimu al-qira'a biharfin wahid la shaqqa dhalika 'alayhim wal-qira'at kama huwa ma'lumun baynaha ikhtilafun fil ada wa fi ba'd al-huruf ولكن المعنى لا يختلف وكل تلقى قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القراءات ليست من ابتكار الناس وإنما هي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن. Donc le cheikh il dit ici que chacun donc récitait le Coran selon son accent, selon sa prononciation et ainsi de suite. Et ça c'était pour faciliter pour la Ummah. Si tout le monde était obligé de réciter le Coran, si toutes les tribus arabes étaient obligées de réciter dans une seule récitation, une seule lettre, ça aurait été difficile pour les gens. Et donc les différentes récitations, comme c'est connu, eh bien, il y a des différences entre elles. Il y a des différences parfois entre certaines lettres, hein, mais la signification est la même. Ok, comme par exemple ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, hein, ça c'est qu'est-ce qu'on a dans le mushaf. Et dans une autre qira'at ça fatathabbatu, tu vois, c'est la même signification, mais c'est des mots différents qui étaient employés dans différentes lectures. Donc il dit chacun avait reçu la récitation qu'il employait ou qu'il récitait directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces différentes récitations là, c'est pas les gens qui les avaient inventées, c'est des choses qui avaient été transmises et reçues directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a entendu les deux, vous avez tous les deux raison, c'est correct, vous êtes tous les deux bien. Il dit ensuite le cheikh, ولكن لما كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يعلم ما مع الطرف الآخر من القراءة الصحيحة أنكر عليه قبل أن يتثبت فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما يؤدي إليه من الاختلاف من الشقاق والتنازع. أما إذا كان الاختلاف له يعني مصوغ فإنه لا يؤدي إلى التقاطع والتهاجر والتدابر. Donc le cheikh il dit, mais lorsque Abdullah ibn Mas'ud il connaissait pas la récitation que l'autre connaissait, hein, et il savait pas que cette récitation là elle aussi était correcte, alors il l'a condamné, hein, il a désapprouvé de qu'est-ce qu'il a entendu de l'autre avant de vérifier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas aimé ça, parce que c'est ça ce qui ramène souvent de la divergence et des conflits et des divisions et des séparations et des disputes. Donc il dit, donc ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé. Il dit, si quelque chose par contre, s'il y a quelque chose qui justifie la divergence, c'est-à-dire que c'est une divergence mais qui est justifiée dans le sens que chacun a quelque chose pour supporter sa position, dans ce cas-là, ça ne doit pas ramener de la division, de la séparation et yani, le fait que chacun veut boycotter l'autre ou yani, tourner le visage, c'est-à-dire il ne veut pas voir l'autre, ou il ne veut pas le fréquenter, ou il ne veut plus lui parler, ou il ne veut plus le voir à cause de ça, parce qu'il est fâché du fait qu'il trouve quelqu'un qui le contredit ou qui est en contradiction avec lui. Donc s'il y a une divergence qui est acceptée, qui est permise par rapport au fait que c'est quelque chose qui n'est pas une divergence qui amène une contradiction ou un conflit, et que les deux positions en question sont acceptées selon la charia, dans ce cas-là, ça ne doit pas créer de la division. Ça ne doit pas créer de conflit entre les deux parties. Il dit ensuite, « Wa qawluhu, wa la tahtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku » هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والمراد به الاختلاف الذي ليس له وجه أما الاختلاف الذي له وجه ومستند فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله لأن الاختلاف على قسمين اختلاف تنوع واختلاف تضاد فهذا الذي وقع من ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو من الاختلاف التنوع وليس من الاختلاف أو من اختلاف التضاد. Donc le cheikh il dit, quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ne divergez pas, car ceux qui ont divergé avant vous, ils ont péri lorsqu'ils ont divergé, ils ont péri. Eh bien ça c'est la preuve que la divergence, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a interdit. Il a interdit qu'on diverge. Et il veut dire par là la divergence qui est justifiée et qui est supportée par un point de vue. Tandis que la divergence, qui n'est, c'est-à-dire la divergence, c'est-à-dire la divergence qui est interdite, c'est celle qui n'est pas supportée par un point de vue valable. C'est ça qui cause la divergence. Mais, et c'est ça qui est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, la divergence qui est supportée par un point de vue valable et qui est basée sur une preuve et quelque chose de valable, ça, le cheikh il dit ça va venir. On va en parler, inshallah. Ça va être clarifié plus tard. Mais, il dit, pour l'instant, il faut savoir qu'il y a deux catégories de divergences. La première catégorie de divergence, c'est qu'est-ce qu'on appelle la divergence qui est une divergence de variété ou de variation. Walaykoum salam, c'est-à-dire qu'il y a différentes variations qui sont acceptées dans la charia pour faire telle ou telle chose ou pour dire telle ou telle chose. Donc, quand il y a une divergence qui est une divergence de variation, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est acceptable et qui ne doit pas causer de division et de divergence. Mais si c'est une divergence qui implique une contradiction, qui est une contradiction entre les deux, un contredit l'autre, un affirme quelque chose tandis que l'autre position le nie, là ça implique une contradiction. Alors ça, c'est ce qu'on appelle ikhtilaf al-tadad. Et c'est ça qui est blâmable. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui cause souvent des conflits. Donc le cheikh al-Islam, il continue, il dit « Naha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an al-ikhtilaf alladhi fihi jahdu kulli wahidin min al-mukhtalifayni ma ma'a al-akhar min al-haq li'anna kila al-qari'ayn kana muhsinan fima qara'a وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا وهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما أدرك هذه الأمة ولا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit la divergence dans laquelle un des deux parties renie ce que l'autre ramène de la vérité. C'est-à-dire que les deux ils ont une partie de la vérité, mais chacun renie la vérité que l'autre a ramenée. Ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné et c'est ça ce qu'il a interdit. Il dit pourquoi? Parce que les deux, dans cette histoire qu'on a mentionnée dans le hadith précédent, les deux parties récitaient qu'est-ce qui était correct. ou qu'est-ce qui était vrai. La récitation des deux était correcte. Et il a mentionné la raison pour laquelle la divergence était mauvaise, et c'est parce que ceux qui ont divergé avant nous, ils ont péri à cause de ça. Donc, nous, on ne doit pas non plus diverger entre nous si on ne veut pas périr comme ceux qui nous ont précédés ont péri. Et il dit que c'est pour cette raison-là que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a dit à Uthman ibn Affan, radiyallahu anhuma, « Adrik hadhihi l'umma ». C'est-à-dire, c'est comme s'il dit à Uthman, parce qu'à cette époque, l'islam avait commencé à se propager dans différentes parties du monde, et les gens du Sham avaient appris certaines récitations de la part de certains sahaba, et d'autres ont appris d'autres récitations de d'autres sahaba et d'autres lectures. Et donc, Hudhayfa, il dit, eh bien, fais quelque chose pour cette umma, pour pas qu'ils divergent à propos de leurs livres, de la même manière que les peuples qui nous ont précédés ont divergé à propos de leurs livres. Et il a dit ça lorsqu'il a vu les gens de la Syrie et les gens de la Palestine, cette région-là, qui divergeaient des gens de l'Irak à propos des différentes lectures du Coran et différentes lettres du Coran. Donc, pour éviter qu'ils tombent dans la divergence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il lui a ordonné de faire quelque chose pour régler ce problème-là. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie. Il dit, « قَوْلُهُ نَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْإِخْتِلَافِ الَّذِي فِيهِ جَحْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ مَعَ الْآخَرِ مِنَ الْحَقِّ أَوْ مَا مَعَ في واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. إلذي هذا الاختلاف هذا هو الاختلاف المذموم الذي فيه أن أحد الطرفين يجحد ما مع الطرف الآخر من الحق ويحكم عليه بالبطلان مع أنه له وجه من الصواب. فالواجب على المسلم قبول الحق ولو كان مع الطرف المخالف، لأن الحق بغية المسلم وليس بغية الانتصار لنفسه. والله سبحانه وتعالى قد ذم اليهود لما عرفوا الحق وردوه. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهم أنكروا الحق الذي مع غيرهم تكبرا وبطرا وعنادا وقصروا الحق على ما معهم فحسب. Donc le cheikh il dit, quand Cheikh al-Islam il explique puis il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la divergence dans laquelle chacun des deux parties nie ce que l'autre possède de la vérité, il dit ça c'est de la divergence qui est blâmable, parce que dans cette divergence là chacun des parties renie ce que l'autre partie possède de la vérité, et il juge que ce que l'autre possède est faux, alors que les deux ont un point de vue qui est vrai, hein, ils ont une partie de la vérité avec eux, quelque chose de vrai. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman? C'est d'accepter la vérité, même si cette vérité-là vient du parti opposant ou de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est l'objet perdu du musulman. C'est l'objet perdu du musulman. Peu importe où il le trouve, il doit le prendre. Et le but, c'est pas de chercher uniquement à défendre sa position, puis de vouloir gagner à tout prix, hein, et aller jusqu'à nier la vérité que l'autre possède. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé les juifs lorsque ils ont su la vérité, mais ils l'ont reniée parce que elle venait de la part de quelqu'un d'autre, hein, que des juifs. Et il mentionne le verset à ce sujet-là, le verset 91 dans sourate Al-Baqara, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsqu'on leur dit croyez en ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous et nous renions tout ce qui est après, hein, tout ce qui vient après, alors que c'est la vérité qui confirme ce qui est avec eux. Mais malgré tout, ils le renient. Donc, le cheikh, il dit, donc ils ont renié la vérité qui est avec leurs opposants par orgueil, par arrogance, par fierté, par opposition. Et ils ont limité la vérité à uniquement ce qui est de leur côté et qu'est-ce qui est avec eux. Donc c'est ça qui est l'injustice, c'est ça qui est mal. Donc le cheikh il dit وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ مُخَالِفَكَ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ حَقٌ وَبَاطِلٌ فالواجب على المسلم أن يقبل الحق ويرد الباطل وأما أن يدفعه التعصب أن يرد الحق والباطل فهذا ليس من خلق المسلم. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qui n'y a pas de doute à leur sujet, c'est que celui qui te contredit ou qui est en divergence avec toi, c'est possible qu'il ait ce qui est vrai ou faux. C'est possible qu'il ait du vrai, c'est possible qu'il ait du faux. Et l'obligation pour le musulman, c'est d'accepter ce que l'autre a de vérité et de rejeter ce qu'il a comme fausseté. En ce qui concerne, tandis que la personne qui va agir de façon fanatique et qui va rejeter la vérité et le faux ensemble, ça c'est pas le comportement du musulman. Ça c'est pas le comportement du musulman. Donc, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan est en train d'expliquer ici? C'est un cas bien spécifique dans le cas où il y a une divergence entre des musulmans. Puis un musulman, il a du vrai et du faux. Donc, dans ce cas-là, il faut distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Prendre qu'est-ce qui est vrai et laisser ce qui est faux. Est-ce que ça, c'est de façon absolue et générale? Ou bien, est-ce que c'est pour tout le monde d'agir de cette façon-là? Bien entendu, ça dépend aussi de la catégorie ou de la sorte de divergence, puis ça dépend aussi du degré de la personne et de son niveau de connaissance aussi. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui sont aptes à distinguer entre ce qui est vrai et faux dans, dans toutes les sortes de divergences. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention aussi là-dedans. Ça ne veut pas dire « va chez les gens que tu sais qu'ils sont dans l'erreur ». Et tu sais qu'ils sont dans le faux parmi les gens de bid'ah et parmi les gens d'égarement, puis tu vas exprès chez eux pour chercher la vérité qui est mélangée avec le faux dans qu'est-ce qu'ils enseignent. C'est vrai. C'est comme si quelqu'un dit, moi je vais apprendre le vrai, et je sais que chez les juifs ou chez les chrétiens, il y a un peu de vrai et il y a du faux. Donc je vais exprès aller chez les juifs pour apprendre la vérité qui est mélangée avec ce faux-là, puis je vais faire le tri. Au lieu d'aller directement apprendre chez un musulman. C'est de l'ignorance, c'est de l'égarement. C'est comme parfois il y en a qui utilisent le hadith d'Abu Huraira, je crois, lorsqu'il surveillait le butin la nuit. Puis il y a un homme qui venait pendant la nuit pour voler du butin. Et le premier soir, il l'a attrapé. Et il lui a dit de le laisser partir. Il l'a laissé partir. Le deuxième soir, il l'a attrapé encore une fois. Le troisième soir, il l'a attrapé. Il a dit, ça y est, cette fois-ci, je vais t'amener au messager d'Allah. Et l'homme lui a dit, écoute, si tu me laisses partir, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu le fais, tu vas être protégé pendant la nuit contre le shaitan. Il ne va pas t'approcher. Il a dit, c'est quoi? Il dit, tu récites Ayatul Kursi. Et le shaitan, pendant la nuit, il y aura un ange qui va te protéger jusqu'au matin. Alors, Abu Huraira, et il a dit, donc le lendemain, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai demandé au messager d'Allah, cette nuit, il y a un homme qui est venu, pendant trois nuits il est venu, mais cette nuit il est venu encore une fois, je l'ai attrapé, il voulait voler. Et il m'a dit que si je récitais Ayat al-Kursi, j'allais avoir un ange qui allait me protéger jusqu'au matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sadaqaka wa huwa kazoub. Il t'a dit la vérité, mais c'est un menteur. Parce que c'était le shaitan, en fait, qui prenait cette forme et qui venait pour essayer de prendre du butin. Donc, il y a certains parmi les gens qui ont une maladie dans le cœur qui utilisent ce genre de hadith pour dire, ben ça c'est la preuve que tu peux prendre la science même du shaitan. Et en réalité, dans le hadith, il n'y a rien qui prouve justement que tu peux prendre ta religion du shaitan ou aller chez le shaitan pour apprendre ta religion. Ou il y en a encore moins. Si tu regardes même le hadith comme il faut, tu vois qu'il y a même l'interdiction de prendre ta religion de celui qui est majhoul, celui qui est inconnu. Puisque dans le hadith, il n'y a aucune chose qui indique que Abu Huraira a accepté ce que cet homme-là lui a dit. Au contraire, il n'a rien pris de cet homme jusqu'à ce qu'il ait vérifié l'information auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour distinguer et pour savoir est-ce que c'est vrai ou faux en premier. Une fois qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est vrai ou faux, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confirmé oui, c'est vrai, mais c'est un menteur. Alors il a dit, bon, maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est vrai, donc là je peux le prendre, mais je ne vais pas le prendre avant. Donc c'est la preuve que si quelqu'un, tu ne le connais pas, tu ne sais pas s'il dit la vérité, tu ne sais pas s'il dit du faux, et que ce qu'il dit c'est mélangé, ou que tu ne peux pas vérifier par toi-même, dans ce cas-là, tu demandes aux ulama, tu demandes aux gens qui sont sur la vérité, les gens qui sont sur la sunna, et tu dis, est-ce que ça c'est vrai? Il y a un tel qui dit telle ou telle chose, est-ce que je peux prendre? Parce que je ne connais pas cette personne qui m'a dit ça. Ou je connais, je l'ai déjà vu, je la vois souvent, mais je ne sais pas son manhaj, je ne sais pas sa aqida, je ne connais pas sa position. Donc, est-ce que je vais prendre de cette personne-là ou non? Tu ne prends rien tant que tu n'as pas vérifié que, justement, l'information est correcte auprès des gens de science. Et le problème à notre époque, c'est que les gens se fient uniquement sur des signes extérieurs, apparents, sans essayer de voir justement qu'est-ce qui est caché derrière et vérifier si tout est correct. Donc, du moment qu'ils voient un prêcheur ou un cheikh qui apparaît dans une chaîne de télévision, ou qui passe à la télé et qui parle de religion, eh bien, du moment que, même des fois, il se base sur son apparence, des fois, même son apparence, il ne regarde même pas. C'est juste comment il parle et son style. Et le fait qu'il mentionne le nom d'Allah, ou qu'il mentionne le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il mentionne des belles paroles, et automatiquement, il prenne de cette personne-là sans vérifier quoi que ce soit. Hein, tout ce qui sort de sa bouche pour eux, c'est comme si c'était la vérité absolue. Donc ça, c'est très dangereux et c'est très grave. Et mais c'est pas de ça que le cheikh ici, il est en train de parler. Hein, il est en train de parler de lorsque deux personnes sont parmi les gens qui sont sur la vérité, sur la sunna, mais qu'il y a une divergence entre les deux sur une question quelconque. Donc il dit wa qawluhu li anna kila al-qari'ain كان محسنا فيما قرأه يعني أن كلا من ابن مسعود كلا من ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنين فيما قرأ فكل قرأ كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن له قراءات ثابتة والمحسن معناه المتبع لما بلغه من الحق قال الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان وقال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ومن غير اتباعه ومن ذلك اتباعه في القراءة الثابتة عنه. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que... non, ça on a lu. Il dit ensuite donc que les deux récitateurs en question avaient raison. Ils lisaient correctement. Et Yanni, il dit, c'est-à-dire que Abdullah ibn Mas'ud ainsi que l'autre homme, tous les deux étaient, avaient raison et suivaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'ils récitaient tous les deux. Et chacun a récité comme il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran a plusieurs récitations qui sont authentiques et confirmées. Et qu'est-ce que ça veut dire yani kilakuma muhsin? Al-muhsin, le cheikh dit, ça signifie de suivre ce qui lui a été transmis, celui qui suit ce qui lui a été transmis de la vérité. Et donc il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 100 dans sourate At-Tawbah, والذين اتبعوهم بإحسان. Ça dit ceux qui les suivent de la manière la plus parfaite, la plus correcte. Et le verset 112 dans sourate Al-Baqarah, بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui se soumet sa personne tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire alors qu'il a suivi l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit parmi les exemples du fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de suivre les récitations qui sont confirmées et authentiques, qui ont été transmises directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, wa qawluhu wa li hadha qala Hudhayfa li Uthman radiyallahu anhuma adrik hadhihi al-umma. يعني بداية هذا الاختلاف الذي حصل بين ابن مسعود رضي الله عنه والرجل الآخر ليس من الاختلاف المذموم، لأن كلا منهما قرأ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تفرق المسلمون في الأقطار وانتشر الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام وصار كل يقرأ بقراءة واحدة من الصحابة، حينها صاروا يختلفون في القراءات اختلافا يخشى منه وقوع الفتنة فيما بينهم. Donc le cheikh il dit l'exemple de lorsque dans le hadith Hudhayfa il dit à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fait quelque chose pour la umma, pour régler le problème qu'il y a dans la umma, parce que au début de la divergence, quand c'est arrivé le problème entre Abdullah ibn Mas'ud et l'autre compagnon, ce n'était pas une divergence blâmable, parce que les deux avaient raison. Hein? Et chacun avait récité comme il l'avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Sauf qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans se sont séparés dans différentes contrées, dans différentes régions dans le monde. Et l'islam a commencé à se propager et les non-arabes ont commencé à se convertir à l'islam. Et chacun, dans ces différentes régions-là, commençait à réciter le Coran selon le sahabi de qui ils avaient appris et entendu le Coran. D'accord ? Donc le cheikh, il dit, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à diverger à propos des différentes récitations, à un point tel qu'on commençait à craindre qu'il y allait y avoir ou il y allait se produire une fitna, hein? Il y en a des problèmes et des conflits à cause de ça. Et le cheikh il dit ensuite, وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ مَسْمُوعَ وَثَابِتَةً عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ الْإِخْتِلَافُ فِيهَا سَيُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ فَإِنَّ الْأَوْلَى جمعهم على قراءة واحدة درءا للفتنة التي خشي منها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه منها، فالفتنة بين المسلمين لا تجوز وفيها خطر ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكان حذيفة يحذر من الفتن وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه لشدة حذره من الفتن، ولذلك لما رأى الاختلاف أو لما رأى اختلاف الناس في الأمصار في تلاوة القرآن اختلافا يؤدي إلى التصارع فيما بينهم وجحد ما مع الآخر من الحق، وربما أدى إلى قتال بينهم أو إلى تكذيب بعضهم بما مع الآخر من الحق، جاء إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فطلب منه المبادرة إلى حسم مادة النزاع. Donc il dit le cheikh que les différentes récitations du Coran, il y en avait plusieurs et elles sont toutes authentiques et elles étaient toutes les gens les avaient toutes entendues directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque la divergence allait amener une fitna, c'était préférable et c'était mieux de les réunir, toutes ces différentes récitations-là, ces différentes lectures, de les réunir en une seule lecture, pour éviter qu'il y ait de la fitna à cause de ça. Donc pour repousser la fitna que Hudhayfa avait craint. Et il n'est pas permis qu'il y ait de la fitna entre les musulmans, parce que c'est un grand danger. Et il y a une règle dans la religion de l'islam, une des grandes règles, c'est que le fait de repousser un mal a précédence ou a préséance sur le fait de ramener ou retirer un bien. Hein? Donc, c'est-à-dire que dans une même chose, ça peut ramener du bien et ça peut ramener du mal. Hein? Donc repousser le mal, c'est plus important que d'essayer de tirer ce bien qui est dedans. Donc si tu sais qu'il y a quelque chose dedans, il y a du bien et il y a du mal dedans, mais que tu sais que le fait qu'il y a du mal dedans, ça va faire du tort, c'est plus important de repousser le mal que d'essayer d'en tirer un peu de bien. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est mieux de prendre des précautions et de faire attention pour repousser un mal. Yani, c'est plus important que d'essayer de tirer un petit peu de bien de qu'est-ce qui pourrait arriver, alors que le mal est parfois beaucoup plus grand. Donc, Hudhayfa, il a averti contre les fitnes. Et il avertissait souvent contre les fitnes. C'est une même de ses caractéristiques parmi les sahaba. Et il était même reconnu pour ça. C'est-à-dire, il est reconnu parmi les sahaba comme étant celui qui prenait beaucoup, beaucoup de précautions et faisait très, très attention à tout ce qui pouvait ramener des causes de tribulation ou de désordre ou de conflit ou de tentation ou des choses comme ça. Et même que il y a le hadith du prophète Hassan qui est très connu, le hadith de la division, puis le hadith de la fitna et ainsi de suite, dans lequel il commence dans le hadith en disant: les gens avaient l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, tandis que moi, j'avais l'habitude de demander à propos du mal par crainte de tomber dedans. Donc, ça c'est une de ses caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'il avait très très peur des fitanes et des problèmes et des conflits. Et donc, lorsqu'il a vu les gens commencer à diverger les uns les autres dans les différentes villes, dans les récitations du Coran, et que c'était une divergence qui arrivait ou qui atteignait le point de créer entre eux des luttes, hein, et que chacun allait renier ce que l'autre possède de la vérité, et que peut-être que même ça allait causer des combats ou des guerres entre eux, et que ça allait ramener certains à renier ce que les autres possèdent de la vérité, alors il est allé voir Amir al-Mu'minin, Othman, radiallahu anhu, et il lui a demandé de faire quelque chose au plus vite pour essayer de limiter et de contrôler ou de cesser cette fitna, ce problème et cette dispute, ce désaccord-là. Et le cheikh dit: وَذَلِكَ بِجَمْعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى مُسْحَفٍ وَاحِدٍ. Il dit ça, la solution c'était quoi? C'était de réunir les musulmans sur une seule lecture du Coran, une seule récitation, et avec un seul mushaf. OK, il dit, et là il explique, il dit: wa kana al-muslimuna lahum masahif muta'addida fiha qira'at mukhtalifa wa hadha hatman yu'addi ila an-niza' wa at-tafarruq fa amara 'Uthman radiyallahu anhu ba'da istisharati as-sahaba bi jam' an-nas 'ala mushafin wahid وبأن ينسخ هذا المصحف إلى نسخ توزع على الأمصار وأن يحرق ما عداه وشكل لجنة من علماء الصحابة وأمرهم أن يكتبوا مصحفا واحدا محتملا للقراءات السبع يعني الرسم واحد لكنه يحتمل قراءات متعددة فاجتمعوا بعد تردد وتثاقل لأن هذا الأمر ليس سهلا ولكن عثمان رضي الله عنه بقوة إيمانه وقوة حرصه على جمع الأمة أقدم على هذا العمل بمشورة إخوانه فكتبوا مصحفا واحدا على رسم واحد يحتمل القراءات الثابتة يسمى الرسم العثماني. Donc, le cheikh, il explique que les musulmans avaient avant plusieurs masahif. Et chacun était écrit dans des lectures et des récitations différentes. Et ça, c'est clair que ça allait ramener des divergences et des divisions. Alors, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, après avoir consulté les sahaba, eh bien, il a réuni les gens pour qu'ils soient tous réunis sur un seul mushaf. Et c'est ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait des transcriptions et des copies de ce mushaf-là pour le l'envoyer dans les différentes régions de l'Empire islamique pour que tout le monde apprenne en se basant uniquement sur ce mushaf et de brûler tous les autres qui n'étaient pas, qui ne correspondaient pas à ce mushaf-là. Et il a organisé un comité de ulama parmi les sahaba et il leur a ordonné d'écrire un seul mushaf qui comprenait les 7 lectures, c'est-à-dire une seule façon d'écrire, mais qui comprend les différentes récitations du Coran. Alors, ils se sont réunis pour faire ça, hein, après beaucoup d'hésitations et beaucoup de temps. Mais ils ont fait ça par la suite, même si la chose était difficile, ils ont réussi à le faire. Et Uthman, avec sa foi et avec son désir, et la force de son désir de voir la Ummah faire ce travail-là, et après avoir consulté ses frères parmi les Sahaba, eh bien, ils se sont mis d'accord et ils ont composé, donc ils ont rassemblé ce mushaf, qui était un mushaf unique, avec une seule écriture, qui comprend les différentes récitations authentiques, et qu'on appelle aujourd'hui Ar-Rasm al-Uthmani, hein, celui qu'on a dans le mushaf aujourd'hui. Et ensuite il dit فَأَمَرَ بِبَقِيَّةِ الْمَصَاحِفِ فَأُحْرِقَتْ وَنُسِخَ هَذَا الْمُصْحَفِ عِدَّةْ نُسَخْ بِعَدَدِ الْأَقَالِيمِ وَوَزَّعَهَا عَلَيْهَا وَكَانَ هَذَا مِنْ حِفْظِ اللَّهِ لِهَذَا الْقُرْآنِ كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فبقي هذا المصحف بأيدي الأمة ولله الحمد وسمي بالمصحف العثماني والرسم العثماني وهذا من أجل أعمال عثمان من أجل أعمال عثمان رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, donc c'est ça, ils ont pris toutes les autres différentes récitations et les autres copies de mushaf qui étaient différentes, ils les ont toutes brûlées et ils ont gardé une seule copie et ils l'ont retranscrit pour qu'il y ait plusieurs copies pour les différentes régions de la Ummah, du territoire de la Ummah de l'époque, et il les a distribuées pour que chacun, lorsqu'il mémorise ou lorsqu'il enseigne le Coran dans sa région, ils vont tous se baser sur cette copie-là, c'est-à-dire le copie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire la copie du mushaf de Uthman radiyallahu anhu. Et ça fait partie de la préservation du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran lorsqu'il dit dans le verset 9 dans sourate Al-Hajr, il dit ce qui signifie nous avons certes fait descendre le rappel et nous allons certes le préserver. Et donc c'est de cette façon que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le mushaf. Et donc c'est comme pour dire, c'est vrai que il y a un bien dans le fait que on ait toutes les différentes récitations. Ça c'est quelque chose de bien, puisque toutes ces différentes récitations là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toutes enseignées. Sauf que lorsque ces différentes récitations là deviennent une cause de fitna, et une cause de division, dans ce cas-là, c'est mieux de les brûler que de les garder pour éviter un mal plus grand. D'accord? Et donc, c'est pour ça, en se basant là-dessus, même certains ulama ont mentionné que si on a brûlé des différentes récitations, des copies du Coran différentes, que dire maintenant aujourd'hui des livres des gens de bid'ah qui peuvent être à cause d'égarements et de divisions et de fitna. C'est encore plus important de les brûler et de les détruire que y en ait des différentes copies, qui sont des copies du Coran. Donc, il dit le cheikh que ça, donc, c'est le mushaf qui existe entre la main des musulmans aujourd'hui, qu'on appelle le mushaf de Othman. Et il dit que ça, c'est parmi les actes ou les choses que Othman a fait qui font partie de ses plus grands accomplissement. وأما بالنسبة للسنة فالرسول صلى الله عليه وسلم منع أن تكتب الأحاديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط القرآن بالسنة. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمن هذا المحذور بانقطاع الوحي وانتهاء نزول القرآن، فبدأوا يدونون السنة فيكتبونها. ولقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب الحديث، ولكنه كان يكتب لنفسه خاصة، أما الكتابة العامة فإنما حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما خيف على السنة من الضياع، فقاموا بجمعها وتدوينها وترتيبها. Donc le cheikh explique en ce qui concerne la sunna maintenant, et bien comment elle a été préservée, hein, comment elle a été préservée de la même manière que le Coran a été préservé, hein, par l'exemple des sahaba, et bien la sunna aussi elle a été préservée. Et il dit le cheikh que au début le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux sahaba d'écrire la sunna, c'est-à-dire d'écrire les hadiths. Et la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de l'écrire à son époque, c'est pour pas que le Coran soit mélangé avec les hadiths, avec la sunna. Hein? Pour pas que, qu'est-ce qui est arrivé chez les juifs et chez les chrétiens se produise chez les musulmans. Que dans leurs livres aujourd'hui, tu vas dans la Bible, tu trouves des paroles des rabbins, des paroles des prêtres, des paroles des moines mélangé avec des paroles d'Allah, et tu sais pas qu'est-ce qui vient d'Allah, qu'est-ce qui vient pas d'Allah, hein, tout est mélangé. Donc, pour pas que ces choses-là se produisent dans l'islam, eh bien, au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que ces hadiths soient écrits pour pas qu'il y ait un mélange entre le Coran et la sunna. Bien entendu, les sahaba, pendant ce temps, ils mémorisaient la sunna, et certains, ils l'écrivaient, mais pour eux seulement. Hein, pour le préserver seulement. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, on a plus eu cette crainte ou cette peur que le Coran se mélange avec la sunna, puisque le Coran était, hein, terminé, complété. Alors, à partir de ce moment-là, puisque la révélation était terminée, eh bien, c'est là que les sahaba et les ulama par la suite ont mis par écrit la sunna. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, c'est-à-dire, il y en a certains qui écrivaient la sunna, quand même. Mais ils l'écrivaient uniquement sur le plan personnel ou individuel. C'était pas quelque chose qui était, hein, fait pour, il y en a une générale et qui n'était pas fait pour tout le monde. Mais par la suite, oui. Et ça, c'était juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a eu peur justement que la sunna soit perdue. Et donc, ils l'ont rassemblé et mis par écrit dans des livres, et ils l'ont mis en ordre. Par la suite, ils l'ont mis par ordre de chapitre, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il dit, tanbih. Al-Qur'an al-Karim, jumi'a fi ahdi al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. فما مات صلى الله عليه وسلم حتى كتب كله في صحائف متفرقة عند الصحابة مع حفظهم له في صدورهم. ثم لما حصلت وقعة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق واستشهد كثير من القراء الحفاظ خشي على القرآن من الضياع، فأشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن من الكتابات المتفرقة فجمعوها في مكان واحد واحتفظوا بهذا المجموع الكامل. Donc le cheikh il explique une note d'explication pour clarifier. Il dit que le Coran a été rassemblé, c'est-à-dire qu'il a tout été mis par écrit et rassemblé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tout le Coran avait été mis par écrit. Sauf que, il n'était pas rassemblé dans un seul livre collé. C'était écrit, tout le Coran était écrit, mais dans des pages séparées. Sur des morceaux d'os, sur des feuilles, sur des choses comme ça. Donc, c'était réuni, mais pas tout attaché ensemble. Et en plus de ça, les sahaba ils mémorisaient ça, hein, dans leur cœur. Mais lorsqu'il y a eu la bataille de Al-Yamama avec Musaylama, Al-Kazzab, le faux prophète, Musaylama, eh bien, à ce moment-là, il y a eu les batailles avec ce faux prophète et ceux qui l'ont suivi. Donc les sahaba, Abu Bakr radiallahu anhu et les autres sahaba ont combattu ces gens-là, et beaucoup d'entre ceux qui étaient des mémorisateurs du Coran ont été tués pendant cette bataille-là, parce qu'ils étaient dans les premiers rangs. Alors, lorsque les sahaba ont vu qu'un grand nombre des mémorisateurs étaient morts, pour justement faire en sorte que le Coran ne soit pas perdu et que les mémorisateurs du Coran ne meurent pas tous, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené toutes les différentes parties ou portions du Coran qui étaient écrites sur différentes pièces, et ils les ont toutes mis dans un seul endroit pour le préserver au complet. Et ça, c'était donc le fait que les différentes parties du Coran soient réunies dans un même endroit. Puis il dit ensuite, il dit ثم جمع للمرة الثالثة في مصحف عثمان الموحد الذي لا يزال بأيدي المسلمين ولله الحمد. وهذه الأعمال الجليلة في الاحتفاظ بالقرآن الكريم هي مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقد تكلف سبحانه بحفظه بينما كانت الكتب السابقة قد استحفظ عليها الربانيون والأحبار فأضاعوها وحرفوها على حسب أهوائهم. Il dit donc la troisième fois que le Coran a été réuni, c'est lorsqu'ils ont rassemblé le Mushaf de Uthman, qui a été l'unification des différentes versions des différentes récitations du Coran. Ils l'ont toutes rassemblées dans un seul et ils ont éliminé les autres récitations. Et ça, c'est le mushaf qui existe entre nos mains aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça, c'est des accomplissements, des travaux qui ont été faits pour préserver le Coran, pour pas qu'il soit falsifié ou corrompu. Et ça correspond à ce que Allah a promis dans le Coran quand il dit nous avons certes fait descendre le rappel et nous allons le préserver. Et donc, c'est Allah lui-même qui s'est chargé de préserver le Coran. Alors que dans les nations précédentes, eh bien, c'était la responsabilité des savants de préserver leur livre, et ils n'ont pas tenu cette responsabilité-là au sérieux, n'ont pas pris au sérieux, et ils l'ont donc fait perdre, et ils ont même falsifié leur livre selon leurs désirs et leurs passions. Naam. Non, le deuxième, c'est à l'époque de Abu Bakr, lorsqu'il y avait le combat avec les Musaylama et ceux qui ont cru en lui, parmi les gens qui ont cru à ce faux prophète. Et donc, beaucoup des récitateurs sont morts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les différentes parties du Coran ensemble dans un même endroit. Hein? Et ils les ont rassemblés. Donc c'est ça. Et le premier, c'est lorsqu'ils avaient écrit toutes les différentes parties du Coran ensemble. C'est-à-dire, ils avaient toutes écrit les différentes parties du Coran, mais sur des pièces séparées. Oui, c'est ça. Des pièces séparées. Le cheikh, il dit, فَأَفَادَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ أَحَدُهُمَا تَحْرِمُ الْإِخْتِلَافِ فِي مِثْلِ هَذَا وَالثَّانِ الْإِعْتِبَارِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا وَالْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَتِهِمْ. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces hadiths-là? C'est que, premièrement, c'est interdit de diverger dans ce genre de choses. Hein? Dans ce genre de divergence-là. Divergence qui implique que chacun des deux renie ce que l'autre possède de la vérité. Et le deuxième exemple, c'est qu'on doit prendre en considération ceux qui existaient avant nous, qui vivaient avant nous, et faire attention de ne pas leur ressembler. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني أن الاختلاف المنهي عنه تضمن أمرين. الأمر الأول الاختلاف في الأشياء التي لا تحتمل الاختلاف مثل ما حصل بين ابن مسعود والرجل الآخر بحيث اختلف في القراءة وكل منهما معه حق، فهذا لا يحتمل الاختلاف لأنه لا مجال لأن ينكر أحدهما على الآخر. والأمر الثاني الحذر من أن نقع في ما وقع فيه من كان قبلنا، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهذا الفعل من التشبه الذي حرمه الله ونهانا عنه في غير ما آية من كتاب الله. ومعلوم أن هذا الكتاب إنما صنف في تحريم التشبه بالكفار وفي اختلافهم تبعا لأهوائهم. Donc le cheikh il explique que يعني cette divergence qui يعني la divergence qui nous a été interdite, elle comprend deux choses. Première chose, la divergence dans les choses qui n'impliquent pas une divergence, comme ce qui est arrivé entre Ibn Mas'ud et l'autre homme, du fait que tous les deux récitaient d'une récitation et chacun des deux avait la vérité avec lui, et donc ça n'implique pas une divergence, c'est pas correct de diverger dans ces choses là puisque les deux c'est vrai. Et on n'a pas le droit, chacun des deux n'avait pas le droit de condamner l'autre pour qu'est-ce qu'il faisait parce que les deux avaient raison. Et la deuxième exemple, ou la deuxième chose, c'est de faire attention de ne pas tomber dans ce que ceux qui nous ont précédés ont fait avant nous. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 105 dans Sourate Al-Imran, ce qui signifie « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé ». Donc, le fait d'agir de cette façon-là, ça implique une ressemblance que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans plusieurs versets dans le Coran de ressembler à ceux qui nous ont précédés. Et il dit, c'est bien connu que ce livre, Iqtida Sirat al-Mustaqim, qu'on est en train de lire, il a été écrit pour prouver et établir l'interdiction d'imiter les kuffars et de leur ressembler dans leur divergence, yani en suivant les passions. Naam. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, on continuera ce cours-là, donc, au prochain cours, samedi prochain, Inch'Allah. Naam. Donc, Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.